With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Cette semaine, on part directement en Chine pour parler de Wolf Warrior 2, le film de Wu Jin. Et j'en parle avec mon ami Yannick Dahan. Salut Yann, ça va ?
Ouais, ça va.
Alors, on va parler de Wolf Warrior 2. Pourquoi le 2 ? En fait, plutôt que le premier. Le 2, parce qu'en fait, c'est contrairement au premier, le premier avait plutôt bien marché. En fait, c'est un film chinois. Hein. Le 2 a tout pété au box-office chinois. Et du coup, on a voulu quand même se concentrer, parce que c'est un film donc, clairement d'action, bourrin, vénère et tout ça, mais qui fait quasiment les scores d'un Marvel, rien que en Chine.
Ouais.
Donc, c'est un film, je crois, qui a fait 850 millions de dollars dans le monde. Dont 847 en Chine. Donc en gros, en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont stabilisés sur Box Office Mojo. Et donc, moi, je me suis dit, je ne les avais pas vus, en fait, avant qu'on parle de
faire cette émission. Oui, moi non plus, je ne les avais pas vus.
Et je me suis dit, il faut quand même qu'on se penche sur ce phénomène et en fait se poser la question de comment ça se fait que ce film-là atteint ces chiffres-là, ces scores-là, même si les films chinois marchent en Chine.
Ouais.
Ils sont quand même aujourd'hui beaucoup... Il y a beaucoup, en fait, d'ailleurs, les Américains font des films, des blockbusters américains en pensant à la Chine pour être sûr d'avoir un carton là-bas, etc., etc. En plus, il faut avoir plus ou moins la carte parce que tous les films ne passent pas le test en fait d'être diffusé en Chine et d'être dans leur 10 000 écrans, je crois, parce que c'est aussi un des pays où le cinéma est en essor total là-bas. Donc voilà, donc ça c'est pour contextualiser. Et après, donc Wolf Warrior 2, bah, ça parle de quoi ? Alors, ça, je te laisse résumer, la choucroute.
Je suis même pas sûr de me rappeler de quoi ça cause. Le film m'a fait beaucoup rire. Sur
alors déjà, c'est avec qui ?
C'est avec le fameux, comment il s'appelle ? Wu Jing, qui était alors qu'un mec.
Jackie Wu en occidental.
Ouais, mais on le dit jamais vraiment. Alors moi, c'est un mec que je connaissais depuis quand même un petit moment avant même les Wolf Warriors parce que moi je suis un gros bouffeur de films de kung-fu de Hong Kong, donc je mate tous les Donnie Yen qui sortent, je mate tous ces trucs là. Et évidemment, c'était un bad guy.
Dans SPL, je crois.
Ça ouais, ça. Non, pas SPL. Il a joué dans peut-être SPL d'ailleurs. Je me rappelle plus. Il y a une mythique baston de rue au couteau entre Donnie Yen et lui dans un de ses films. Mais bon, il en a tellement fait Donnie Yen.
Ouais.
Je ne sais plus tout, dans quel film ils sont. Mais il a fait l'antagoniste, le méchant, dans des tonnes de films. Et c'est une brutasse pour qui aime la chorégraphie de Kung-Fu à Hong Kong. Franchement, les fights entre Donnie Yen et lui, elles étaient vénères. D'ailleurs, c'est un des éléments purement déceptifs pour moi des deux Wolf Warriors, ouais. C'est qu'il ne met pas du tout, mais quasi pas, en valeur ses capacités martiales.
Martial,
il le fait un peu plus sur le 2, sur Wolf Warrior 2, que sur le premier. Oui, et puis c'est improbable que ce mec-là... Mais tu sais, c'est improbable, il y a un truc très chinois là-dedans qui a vraiment là-bas. C'est comme Donnie Yen qui a fait quasiment 15 ans de rôle de bad guy dans les films. Si les gens s'en rappellent, il était l'antagoniste de Jet Li dans Il était une fois en Chine, ouais. Et tout ça. Et on aimait bien parce qu'on se disait, oh, ce mec, il se bat super bien et tout. Mais jamais on imaginait que ça allait devenir des restas. Et puis Wu Jin, pareil, c'est pas des gars charismatiques, c'est pas des grands acteurs. C'est vraiment pas un très grand acteur. Mais ils se sont fait connaître justement.
On va peut-être préciser que Wolf Warrior, c'est pas des très grands films non plus.
Non, c'est pas des très grands films non plus. Mais par rapport à des performances. Ils sont appréciés parce qu'ils ont ce côté qu'on apprécie en Chine. Enfin, je veux dire, les Jackie Chan et tout ça ont amené des personnages qui physiquement font des prouesses, quoi. Mmh. Et ce mec-là est capable de le faire. Alors maintenant, très honnêtement, pour avoir vu le premier et le deuxième, j'ai, hormis la logique ultra-propagandiste, nationaliste à donf du premier, je ne comprends pas. Par rapport à ce qu'est capable de faire quand même en règle générale désormais le cinéma de Hong Kong, qui est quand même un cinéma
chinois maintenant.
Parce que cinéma chinois, bien sûr, mais un cinéma qui a des moyens, un cinéma qui a quand même fait des blockbusters avant tout ça et des trucs quand même des fois de facture quand même de qualité. Moi, je comprends pas comment ce Wolf Warrior, le premier, a pu être un gros carton.
Parce que ça a été un carton modéré par rapport au...
Alors ça, c'est quand même nullissime en réel, nullissime en acting, en scénario.
Je pense que c'était une très bonne surprise pour eux, parce que c'est un film qui a, qui a rapporté 80 millions de dollars là-bas. Et le truc, c'est que je pense qu'il a bénéficié de l'essor de salles là-bas, ce genre de choses du cinéma.
Oui, peut-être.
Mais en tout cas, oui, effectivement...
Peut-être de nationalisme exacerbé à un moment donné, va savoir. Mais c'est une œuvre de propagande,
Et surtout, c'est un film relativement sérieux, enfin débile, mais relativement mais sérieux. Assez austère dans l'action qu'il propose.
Avec de l'overdrama à l'asiatique, comme toujours. Voilà, quand quelqu'un est triste, il est triste 10 minutes avec des ralentis pour faire pleurer au maximum. Moi, ça, j'adore ça, mais bon.
Voilà, et donc, oui, c'est pour moi, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est même carrément, c'est une purge. Hein, c'est-à-dire, il n'y a rien à sauver quasiment dans ce film.
Il m'a fait un peu rire parce qu'il y a Scott Adkins. Ça me faisait marrer de voir Scott Adkins. Mais même leur fight, elle est pétée.
Mais même ça, le truc, en fait, Scott Adkins, c'est que finalement, combien de fois il l'a joué, le méchant occidental.
Il joue très mal.
Non, mais c'est une tradition de ce cinéma-là aussi, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu parlais de Woo Jin ou de Donnie Yen qui ont joué des méchants dans les films de Hong Kong des années 90-2000. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a aussi une autre tradition qui était d'aller chercher des combattants émérites occidentaux et en fait de les faire jouer les méchants dans Gary Daniels. Combien de voix il a fait chez
Jackie Chan. Les méchants, c'était les occidentaux, de toute façon.
Mais après, bon, pour passer très vite sur Wolf Warrior, c'est que Wolf Warrior 2, c'est un film qui, même en fait, en termes de ton, en termes d'imagerie, n'a plus rien à voir.
Il est radicalement différent.
Jusque dans sa scène d'ouverture.
Dès le début, tu te dis, alors attends, j'étais dans un film qui valorisait des forces spéciales chinoises, avec un côté vraiment propagandiste, où en plus, on essayait de te montrer, bon, pas toujours bien fait, mais on essayait de te montrer toute la logistique, tout l'armement. C'est-à-dire, c'était quand même une panoplie de tanks, d'avions, pour dire, regardez la puissance de notre armée. Donc, vraiment un truc... premier degré, qui essaye d'être sérieux, militaire, tout ce que tu veux. Et là, dès la première scène, tu dis, OK, c'est James Bond. Enfin, c'est même plus que James Bond. Là, c'est un super-héros. Le personnage, ça commence en espèce de plan séquence improbable où il va attaquer des pirates.
Ah, c'est foireux parce que c'est sous l'eau.
Tout est foireux. C'est pas que sous l'eau. C'est-à-dire, tu suis le mec, il va sous l'eau, il se bat sous l'eau. Enfin, je veux dire, la fausse bonne idée de merde. Le truc, tu dis, attends, je vais faire du kung-fu sous l'eau. Et t'es censé rendre ça impressionnant. Ça va de alors que les impacts, ils marchent pas. Et il sort et ça finit par un lance-roquette.
C'est surtout que la chorégraphie n'est même pas cohérente sous l'eau, puisqu'en fait, il y a à un moment donné, il coince deux couteaux, c'est le truc connu actes de certaines chorégraphies comme ça, où en fait, il y a un mec qui va arriver avec son couteau, l'autre qui arrive avec son couteau, ils les croisent tous les deux pour annuler le coup. Ouais. Sauf qu'en fait, sous l'eau, ça marche pas. En fait,
c'est bidon dès le départ, mais au moins, ça a le mérite de te donner une note d'intention qui est quand même marrante. Tu dis là, on est sur du James Bond plus, ça n'a plus rien à voir le premier film. Et comme tu le disais quand on en discutait entre nous, je crois que effectivement, la grande différence, c'est que alors tu ne peux plus maintenant enlever de ces films là la dimension politique et l'implication
jusque dans le plan final du film,
mais au-delà de la propagande, c'est presque plus insidieux que ça, c'est-à-dire les blockbusters américains n'ont qu'un seul désir aujourd'hui, en plus de leur
marché,
c'est pénétrer le marché chinois. Eux, ils font les malins, hein. Tu sais, c'est genre, nous, on est économie de marché, donc d'accord, on va mettre des limites, on va mettre des quotas, on va contrôler les trucs, mais OK, mais qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Ils prennent le savoir-faire, je veux dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur Wolf Warrior 2? Ils ont pris les frères Russo. C'est que les frères Russo sont consultants sur Wolf Warrior.
Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de consultants, parce qu'en fait, le truc, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu as des remerciements en fait à d'autres réalisateurs comme Benny Chan, des mecs comme ça qui ont tourné avec.
Mais bien sûr qu'il a dû demander, parce que là, quand même, Woo Jin se retrouve pour la première fois à devoir gérer quand même un film tuné, un gros blockbuster, et le fait que tu ailles chercher les ricains des Captain America et que ça, c'est pas innocent non plus. Moi, je te dis, c'est des bâtards. Ils sont vraiment en mode, c'est on vous laisse ouvrir les trucs, mais alors vous nous apprenez exactement où vous faites vos blockbusters et nous, on va les faire maintenant et on va les faire tout seul. Le côté africain.
Oui, parce que ça se passe en Afrique. Alors, c'est quoi?
Au-delà, l'histoire.
Non, parce que t'as pas résumé l'histoire.
Alors, l'histoire, elle est toute conne. Ce super soldat du premier Wolf Warrior, il a les boules parce qu'un de ses super copains dans le premier se fait buter. Il va à l'enterrement et tout ça. Et il se rend compte, en fait, qu'en voulant venir rendre hommage à sa famille dans un bled, il y a des méchants connards qui détruisent la maison de la famille de son poteau. Donc, il leur pète la gueule. Donc, il est un peu rejeté.
Il est tricard
à l'armée et tout ce que tu veux. Et il apprend en même temps temps que la nana dont il était tombé amoureux dans le premier, mais comme toujours dans les films asiatiques, c'est vraiment du flirt de maternelle, quoi. Mais bon, c'était du flirt de maternelle, mais peu importe. Et elle a disparu lors d'une opération. Elle s'est fait tirer dessus. On ne sait pas si elle est vivante, si elle n'est pas vivante, mais
le
elle a disparu.
Reste, c'est la balle.
Et voilà. Et il lui reste une balle très bizarre, très étrange. Et il apprend que cette balle aurait une origine en Afrique. Et du coup, le film le prend alors qu'il traîne ses guêtres en Afrique depuis un petit moment. Il dit tous les gentils d'enfants noirs africains et tout ça, et dont un espèce d'ersatz de Arnold et Willy, parce qu'ils ont pris Arnold de Arnold et Willy pour faire son copain dans le film.
C'est le petit Mayimbo.
Oui, voilà, c'est ça. Et moi, j'étais là, mais c'est ouf, parce que moi, j'en ai bouffé du film hongkongais. J'en ai vraiment bouffé. Et s'il y a bien une constante, c'est que les salopards, c'est les occidentaux. Et si en plus, ils peuvent être blacks, c'est encore mieux comme salopards, tu vois. C'était quand même un cinéma qui avait des aspects assez racistes, ou à défaut, si tu veux, d'être raciste, qui était tellement protectionniste que tout ce qui était...
Une très mauvaise compréhension des autres...
Ce que je veux dire, c'est que j'avais jamais vu dans un film hongkongais, dans un film chinois, une telle déclaration d'amour outrancière à tous les noirs d'Afrique. C'est genre, c'est nos meilleurs copains.
Mais bon, c'est ce qu'on
ils sont gentils, ils dansent bien, ils font la
fiesta. C'est l'Afrique. C'est oui, mais pas c'est quel l'Afrique. Pays, on sait pas, c'est l'Afrique.
Mais oui, mais c'est politique, ça aussi. On sait très bien l'influence qu'a la Chine en Afrique aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a des tonnes d'officines chinoises qui essayent de noyauter des tonnes de pays. Et en plus, là, ils font le genre, les amis, les Chinois et les Africains, c'est les meilleurs copains du monde. Alors que t'as encore aujourd'hui des tonnes de documentaires qui sortent, qui te montrent comment il y a des bâtards de Chinois ultra-fiqués qui exploitent des pays africains, qui réduisent totalement dans la misère des populations entières. Et là, quand moi j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, oh, ils sont gonflés quand même. C'est-à-dire, pendant 30 ans, à chier sur tous les blagues dans les films en disant, c'est les pires que tu peux avoir, alors tout d'un coup on se fait des bisous, on est tout là. C'est tellement outrancier que j'en étais pété de rire. Et voilà, je sais plus pourquoi. Oui, donc, et ils cherchent donc à retrouver Sanala. Mais quand il arrive en Afrique, forcément, qui dit Afrique dit. Ils dansent bien, ils font de la bonne nourriture, ils sont rigolos et forcément ils ont des épidémies dans la gueule parce que bon voilà.
Et il y a des dictatures, il y a des
méchants dictatures.
Non, mais pas corruption. Des dictatures, je veux dire il y a des méchants révolutionnaires qui veulent soulever.
Méchants forcément révolutionnaires. Enfin t'as la casse clicheton, elle est vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'ils veulent pas être racistes, mais en fait sans s'en rendre compte ils le sont puissamment. Mais bon peu importe. Et donc il arrive et évidemment en plus il y a un virus et il va contracter le virus et il va se rendre compte qu'il y a un enjeu qu'il faut retrouver le docteur qui a trouvé l'antidote du virus et bon il se bat contre des mercenaires américains qui veulent venir
ça c'est pareil c'est tellement pas un enjeu enfin le mec il contracte le virus mais en fait c'est bien qu'il l'aurait pas contracté c'est
au
pareil
au bout de 10 minutes de Wolf Warrior 2 t'as compris que t'allais te marrer avec les gentils africains qui dansent très bien et qui on se fait des bisous parce que franchement c'est tellement caricatural que t'en es mort de rire et que surtout le type il te dit mais le scénar je m'en branle moi je fais une scène d'action toutes les 5 minutes et toutes les 5 minutes t'as ça et le truc est jouissif et qui manque. Et pour moi, c'est normal que ce soit un carton en Chine et que ce sera probablement toujours un plus gros carton que certains films d'action américains. C'est que là, quand on tue des gens, on tue tellement de gens, mais c'est tellement voyeuriste, morbide, dégueulasse, c'est genre centième quoi. C'est on bute des malades dans un hôpital, on fait des génocides toutes les 5 minutes, t'as du gore partout. Enfin, moi j'étais là, mais il est magnifique ce film. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai vu une espèce d'excroissance dégénérée. Tu sais, c'est à l'époque, les seuls trucs qui pouvaient rivaliser en termes d'ampleur, c'était les Tsui-Hark. Mais c'était les Tsui-Hark qui disaient. Je fais un film d'ampleur avec le folklore et la culture chinoise et je la mets en valeur parce qu'on peut refaire aussi bien que les Américains. Et là, t'as une espèce de truc de dégénéré, c'est-à-dire de propagande chinoise qui est schizophrène complètement aussi par rapport à sa propre culture, qui va s'approprier des trucs typiquement ricains, la scène des tanks, enfin, il y a des trucs, c'est
oui, ça, c'est pareil.
Non, mais c'est du pompage trucs, de film hollywoodien.
C'est du pompage de Fast and Furious, ouais.
Mais ça te donne... Mais du coup, oui, t'as l'impression que tu vois... Un Fast and Furious débile, inclusif mais raciste en fait, et derrière ultra violent au point d'être complètement gratuit. Bah, moi, il y a tout ce que j'aime. Ah ouais. c'est tout ce qui m'a fait rigoler. Donc, Moi, j'étais assuré que ce film existe est un miracle. C'est n'importe quoi. Et en même temps, je comprends pourquoi il a cartonné. C'est vrai que tu veux venir voir de l'action, pour le coup, on te promet de l'action, t'as que ça, quoi.
Ah ouais, mais le truc, alors, ce qui est assez ouf dans ce que tu dis, en fait, c'est que. Oui, alors, ça,
c'est vrai triste, que ça, hein, mais drôle en même temps.
Ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce moment où ils arrivent à s'échapper d'un laboratoire où ils étaient en train de faire des tests sur le truc. T'as une scène d'action dans les favelas. Ouais. En fait, t'as une poursuite en bagnole avec des cascades, des machins, des bidules en moto, et trucs comme ça, etc. Ça te défonce dans tous les sens. T'as des bagnoles qui se plantent et tout ça, etc. Les mecs terminent, leur course en fait en éclatant le 4x4 dans une fosse sceptique.
Oui, ils tombent sur des cadavres et tout.
Des cadavres, et la scène elle dure.
Elle dure pendant
2-3 minutes et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe?
J'ai vu le film, je me suis dit, Michael Bay, c'est une chochotte à côté en fait. Par rapport au nombre de morts et à la façon décomplexée d'être dans le glauque, quoi. Parce que c'est limite, tu dis, les mecs ils rigolent, ils font des blagues, ils désacralisent complètement les séquences d'action et en même temps. C'est du génocide sur génocide sur génocide.
Ouais, le truc qui est hilarant, c'est que du coup, t'as des trucs d'enjeu quand même qui sont. C'est-à-dire que le scénar, comme il est tellement écrit à la va comme je te pousse, qu'à un moment donné, t'as une scène où, en fait, pour extraire, il appelle son pays et en fait, il dit voilà, on va vous envoyer combien? Un hélico. Et en fait, lui, il est dans une truc où il n'y a que des. Des travailleurs africains dans une usine. Et en fait, il y a quelques Chinois qui tiennent l'usine et qui décident. Qui va rentrer dans l'hélico ou pas, et lui en fait il y va.
Il dit on va tous partir.
Des promesses à la Macron.
Ouais, c'est ça. Allez, on va prendre tout le monde. On a que l'hélico, mais on prend tout le monde.
En fait, tu te dis, mais on va faire comment? Mais en fait, le scénar règle le problème puisque la moitié se font tuer entre temps, quoi. Donc en fait, c'est assez hallucinant.
Mais c'est schizophrène. C'est un film en réalité qui est schizophrène, surtout entre les valeurs qu'il met en avant et la réalité de ce que tu vois dans le film. C'est entre le héros qui est censé sauver pleinement, mais en fait, il y a 10 milliards de fois plus de personnes qui crèvent. Il est complètement. Il sait pas où il habite, le truc.
En fait, il y a ce truc aussi de se dire que je pense justement que tout ce qui pourrait être moralement, entre guillemets, répréhensible, ça les atteint pas. Non pas parce qu'ils n'ont pas de morale, hein, pas forcément par rapport à ça, mais c'est parce que personne leur fout dans le pif.
Oui,
nous, en Occident, n'importe quel film en fait, où il y aura ce genre de truc.
Ne jamais sortir aujourd'hui en Occident.
Un Michael Bay, quand il fait ça. Ouais. Bon, c'est sorti hein, aux États-Unis, c'est sorti. Bon, maintenant, là, le truc, c'est que Wolf Warrior 2, pas le premier, mais le 2, on peut le voir sur Netflix.
Ouais.
Je crois qu'à suite au succès du film, Netflix a plus ou moins attrapé les droits mondiaux. Avec, je crois, une sortie aux États-Unis, juste, mais c'était pas eux qui l'ont sorti.
Mais c'est anecdotique.
Voilà. C'était complètement anecdotique. Hein, les 3 millions que le film a fait dans le reste du monde, c'est aux États-Unis.
Oui,
voilà, et probablement à Los Angeles, quoi. Ou à New York, quoi. Mais où c'est dû sortir comme un petit film d'auteur. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Mais je crois que c'est sorti quasiment en même temps, quoi. Et en fait, le truc, c'est que voilà, il y a des scènes, mais même les méchants, par exemple, c'est-à-dire que en fait, le manichéisme du film, il est hallucinant. C'est-à-dire que le méchant qui est interprété cette fois par Frank Grillo, qui est donc.
Qui est mauvais, putain. Il a pas de biscuit, le pauvre, mais en même temps.
Mais moi, je l'aime bien, Frank Grillo.
Moi, je l'aime bien, Frank Grillo, mais il a quand même
un charisme de prof de yoga, quoi. Tu
non, il peut avoir du charisme, ça dépend comment tu le filmes, quoi. Tu vois, c'est jusque-là, il est.
Prof de pilates. C'est pour moi, c'est le prof de yoga dans GTA 5, je sais plus comment il s'appelait, Fabien Douche, je sais pas quoi, c'est un peu comme ça, quoi. Tu sens qu'il est un peu propre quand même, quoi. Et ce truc, c'est que ce mec-là, il arrive et en fait, il a une scène où dans le même hôpital, enfin, pas dans le même hôpital, dans le même laboratoire, en fait, une fois que les personnes importantes de ce laboratoire sont exfiltrées, bah, lui, quand il arrive pour suivre, on va dire, les traces du héros, quand il a ce qu'il veut, il tue 4 grenades, il tue tout le monde. Alors, ils ont pas les couilles de le montrer.
Ouais,
mais ils le font
quand même.
Et c'est là où tu te dis, mais c'est ce mec-là, il mérite de crever comme une merde.
Oui, c'est impossible, quoi. Il y a un espèce de côté, je pousse les potards à tous les niveaux, mais sont avec une inconséquence et une irresponsabilité que je trouve absolument géniale.
Mais moi,
et que
je pense
l'Occident n'est plus capable de faire.
On va donner pas mal envie aux gens de le regarder.
Non, mais moi,
insulté.
La dernière, on en a foutre. Il me fait penser à ce film indien là avec Tiger dedans, là une suite encore. Mais vous rappelez pas ce film? Là, Tiger quelque chose, je m'en rappelle plus, un film qui est sorti il y a 2-3 ans avec une rosta hindoue, film d'action hindoue, tu vois, le mec, mais c'est genre, c'est des terroristes arabes, je vais tous les buter, c'est tous des Allahu Akbar, et j'y vais, il y va à la grosse une fatale, t'as l'impression de voir le Rambo indien, quoi, et tu te dis, rien que dans la bande-annonce, il y a tout ce que le cinéma occidental ne pourrait plus jamais faire aujourd'hui, et qui, en fait, est tellement détendu du sphincter que c'est ça en devient hyper drôle, et tu vois, moi c'est des trucs comme ça qui me font marrer aujourd'hui,
c'est à dire que c'est vrai que ça va tellement loin que tu peux pas
le prendre au sérieux de toute façon.
Après, en toute honnêteté, bon, maintenant soyons honnêtes, deux secondes,
Après, c'est torcher avec les pieds, c'est voilà, crier avec ça. Les pieds, c'est jouer avec les pieds, bon, bien sûr.
Non, mais voilà, le truc, c'est que tu te retrouves. Il faut savoir que, une fois qu'on a parlé de ce côté, enfin, Michael Bay, je pense que c'est un bon exemple parce que tu sens que les mecs, en fait, au-delà de tous les plans, les stock shots de paquebots militaires chinois ou les trucs comme ça avec la musique, une musique à la Jablonski, quoi. Au-delà de ça, t'as quand même, en fait, ce truc où, d'un seul coup, tu te retrouves, en fait, avec, et au-delà de l'aspect, comment dire, outrancièrement violent et amoral du film, t'as des scènes. Alors, moi, je dirais plus à Fast and Furious que Michael Bay, parce que Michael Bay, je lui accorde un certain mérite.
Sur le dernier, quand même, rassure-moi.
Six Underground,
ouais.
On en parle.
Tu y regardes. Ouais.
Mais il fait des trucs en l'occurrence que pour le coup, voilà. Mais bon, ça sera une autre émission.
Puis Ryan Reynolds, donc moi, j'aime bien.
Ça sera une autre émission, Yannick. Et pas avec toi puisque t'as pas aimé, puisque voilà. Mais là, t'as des dérapages de tank.
Mais c'est ça. Je veux dire, c'est ça. Non, mais moi, elle est mal montée.
C'est dégueulasse visuellement.
C'est dégueulasse. Mais quand on arrive à te dire, je vais faire pareil que dans Fast and Furious, mais je vais pas prendre des voitures, je vais prendre des tanks qui vont se courser, qui vont faire des dérapages contrôlés et tout. Enfin, c'est tellement aberrant que bon, moi j'étais mort de rire. Mais ça n'enlève pas qu'au bout d'un moment, bon, tu te marres 45 minutes du film, puis tu te fais chier au bout d'un moment parce que ça.
C'est un peu le problème. C'est quand même un film qui dure 2 heures.
Ouais, il est trop long.
Voilà. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est après s'être tapé le premier. Et après, il y a un gouffre, en fait, entre les deux films, d'être décomplexé comme ça, en fait, d'aborder le truc de manière décomplexée, qui est quand même assez dingue.
Mais tu sais, voilà, moi, je trouve qu'on a tellement tout formaté, et que tout est devenu tellement, comme on se disait, on parle plus de cinéma, on parle de franchise, et que les films sont pensés à l'aune des mécaniques de franchise et pas de l'histoire qu'ils racontent, que quand t'as des trucs complètement dégénérés, qui explosent toutes les règles de la bienséance, qui font du gigantesque n'importe quoi, mais qu'ils le font avec un plaisir évident et pas cynique, ben moi j'achète, quoi, parce que j'ai l'impression de sortir d'une norme fadasse qui m'ennuie de plus en plus, et d'un cinéma tellement au chloroforme que j'ai même plus envie de voir les films. Moi, je vois un truc comme ça, j'en ressors quelque chose, je me dis, attends, j'ai jamais vu un truc pareil, c'est complètement barré,
aujourd'hui, en tout cas, ces dernières années.
Aujourd'hui, mais bien sûr, mais moi je te parle d'aujourd'hui.
Parce que c'est quand même, ça pourrait tout aussi bien être la Canon.
Non, mais bien évidemment. 80, mais je veux dire, heureusement qu'on a des mauvais films comme ça, heureusement qu'on a bons films comme El Reino en Espagne, tu vois, et des petits trucs qui sortent tout simplement de. Parce que c'est complètement au-delà d'une bonne ou d'une mauvaise mise en scène, d'un bon scénario ou pas d'un bon scénario. C'est un état d'esprit, c'est l'air de rien, qu'on le veuille ou pas, un rapport aux idéologies, un rapport à la doxa du moment. Tous les grands films dits hollywoodiens, que tout ce que tu veux aujourd'hui, ont une doxa idéologique qui est insupportable et qui nivelle tout par le bas, qui rend tout pareil, qui fait que t'as l'impression de voir 200 fois le même film, quelles que soient les franchises. T'as les mêmes principes, les mêmes idées véhiculées, les mêmes morales de merde, les mêmes valeurs de merde, que quand t'as 2-3 trucs qui sortent et qui font qui pètent en gros coups et qui disent je vous emmerde, vos conneries, ça m'intéresse pas, moi je vais faire du limp. Ah ben moi, c'est un grand moment de respiration.
Alors après, le film n'est pas, enfin la franchise, on va dire, en tout cas, n'est pas à l'abri de tomber dans les travers que tu...
Ah ben évidemment.
Puisque en fait, en gros, donc si vous restez jusqu'au bout du générique, si Netflix normalement vous le permet, en tout cas pour ce truc-là, en fait, ils annoncent littéralement Wolf Warrior 3 avec un truc que tu pensais qui était terminé, qui ne l'est pas finalement. Ouais. Donc voilà quoi. Mais alors bon, si j'ai bien compris. Wolf Warrior 2, tu recommandes?
Ah non, mais je recommande pour les trois concres du fond. Je recommande. Après, t'es un inconditionnel des blockbusters américains aujourd'hui. Non, tu vas être outré. Tu vas être outré par ce truc qui sent la chaussette, quoi. Mais moi, c'est ça que j'aime aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, ça craque pas assez du slip, ça sent pas la chaussette, ça prétend être... tout le monde prétend être une vierge effarouchée, et ça me fait énormément plaisir de voir un film où c'est des gros dégueulasses. Parce qu'au final, c'est ça. Ils ont beau faire les vierges effarouchées dans le film aussi, ils font absolument le contraire, quoi.
C'est vrai que c'est complètement schizo, parce que tu regardes le truc avec le plan final sur le passeport qui t'explique en gros.
Mais oui.
Amis chinois, tu vois. Si tu rencontres du danger à l'étranger, n'oublie pas qu'il y a la mère patrie est avec toi.
Ça, c'est l'aspect propagande que tu t'attends. Mais même si tu crains que le Wolf Warrior 3, moi, je pense que très probablement, si un Wolf Warrior 3, il ira encore plus dans très probablement
la cacahuète.
Non mais ouais. Je veux dire le VFX à la Fast and Furious, le gloobie boulga de scènes d'action telles que tu les vois déjà dans les films américains, mais ils ne pourront pas s'empêcher leur côté propagandiste que dans notre âge qui est quand même hyper drôle, et ils ne pourront pas s'empêcher d'y aller dans le grand nimp, l'ultra violence et l'over drama, et c'est ça qui les différencie et qui les rend très drôles. C'est-à-dire que voilà, c'est ça qui est, ce qui a été marrant, moi, c'est ces films où on va tuer un enfant et on va te le montrer pendant 10 minutes, et tu vas voir tout le monde qui va pleurer pendant 10 minutes, et du coup, ça te fait monter la sauce, et puis quand il va tuer le mec derrière, il le marave.
Ah, mais moi, tu vois, alors là, pour le coup, j'ai trouvé ça vachement décevant, la mort de Frank Grillo.
Ouais,
parce que tu disais justement au début que c'est très déceptif, en fait.
La fin est le plus raté dans le film. Mm. Que ce soit la scène des tanks et la fight avec Grillo, c'est le plus raté. Le reste est plus fandard. Mais attends, on met les parenthèses à tout ce qu'on dit, c'est quand même de la bouse. Hein. C'est de la bouse, mais c'est de la bouse rigolote.
Quoi. Des parenthèses sur les guillemets, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Merci Yann.
Pas de souci.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous allez vraiment mettre les guillemets, comme le dit Yannick, sur ce qu'on a dit. C'est fun, mais c'est quand même très très con. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. N'hésitez pas à laisser vos commentaires un peu partout, là où vous voulez, sur le réseau social de votre choix. Vous pouvez voir nos vidéos stéroïdes donc sur YouTube et écouter aussi nos podcasts sur Deezer et Spotify. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre film.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.